Oui, alors je suis conservateur de la maison de Balzac à Paris. Alors je commence par une annonce publicitaire. Allez voir la maison de Balzac à Paris, charmant musée situé dans le 16e arrondissement entre le Trocadéro et la maison de la radio, dans la rue Renoir, 47 rue Renoir. Alors la maison de Balzac à Paris est un musée de France et comme tous les musées de France, nous avons fait notre projet scientifique et culturel, lequel est résumable en une phrase, même un slogan, faire lire ou relire Balzac. Voilà, donc vaste programme, comment faire lire ou relire un écrivain en accrochant sur le mur des peintures, des dessins, des gravures, etc. Bon, c'est un autre sujet, on ne va pas aborder ça maintenant. Toujours est-il qu'en réalité, le travail dans ce genre de musée consiste d'abord à savoir ce que l'on a pour savoir ce que l'on peut faire. On ne cesse de, en fait, on passe tout son temps à essayer de s'accrocher aux branches, donc à trouver des branches pour s'accrocher. Donc, pour faire lire ou relire Balzac, en général, on essaie de mettre en avant des textes de cet écrivain et de préférence des textes qui soient lisibles par le public. Si on commence par leur proposer Illusion perdue, ceux qui n'ont jamais lu vont se décourager tout de suite. Donc on va chercher des petits textes faciles à lire, sympathiques, mais qui en même temps donnent toute l'essence du créateur. Et après, il va falloir trouver comment montrer ces textes-là, parce qu'on ne va pas tout écrire sur les murs, si vous voulez. Ce n'est pas évidemment le but du sujet. Alors il se trouve qu'il existe un texte merveilleux qui s'appelle « Le traité des excitants modernes ». Bon, je vois que ça suscite peu de réactions. C'est un texte, effectivement, qui est très peu connu, mais à tort, et que vous devriez lire. Je pense que vous allez vous précipiter dessus à la sortie de ce colloque. C'est un texte dans lequel Balzac parle des drogues de l'époque. Alors, les drogues de l'époque, ce n'est pas des drogues dures, mais c'est quand même le café, le thé, l'alcool et le tabac. Et c'est un texte très drôle, très vivant, dans lequel Balzac va vraiment parler de ses problèmes d'accoutumance, de ses problèmes de désintoxication, et il va aussi poser la question de la création artistique, puisque l'artiste doit de temps en temps faire appel à ses excitants, mais au bout d'un moment, oh, ça coince, et donc là, on tombe dans la vie cryptogamique des bourgeois retirés, dit Balzac. Et du coup, la question se pose de l'usage de ces produits, est-il compatible avec la création artistique ? Donc on a une vraie réflexion sur la création artistique. Et ce texte a été écrit en 1838, on passe un peu plus d'un siècle, on arrive en 1888, l'éditeur Yves Rivière s'adresse à Pierre Alechinski en lui disant « Pierre, mon ami, j'ai trouvé un texte génial que personne ne connaît, le traité d'excitants modernes, est-ce que tu ne voudrais pas en faire les illustrations ?» Pierre Alechinski lit le texte, il se gratte l'occiput, qui est d'ailleurs un peu dégarni, je lis parce qu'il n'est pas là, et puis il n'est pas emballé du tout, il se dit, oui, effectivement le texte est très intéressant, très amusant, mais enfin, ce Balzac, au fond, il ne me connaît pas, est-ce que je suis certain qu'il aurait été satisfait de ce que je vais faire sur son œuvre ? Est-ce que mes illustrations ne lui auraient pas paru abominables ? Ça me gêne beaucoup. Et donc, ça tourne pendant un an et demi pratiquement. Puis au bout d'un an et demi, la révélation. Mais oui, bien sûr, en réalité, illustrer n'est pas concurrencé. Donc, je ne vais pas faire des dessins de ce qui est dit par Balzac. Je vais dégager mes impressions. Et donc là-dessus, Pierre Alechinski part et je vous montre son travail. Donc, il commence de façon tout à fait classique par des esquisses qui sont comme ceci. Ça, c'est un travail à l'encre sur du papier calque avec un peu de texte autour. Et ensuite, il va faire des planches pour mettre dans le texte, et il va faire ce travail sur des aquatintes. Alors, il a pris des grandes planches en cuivre, de façon à ce qu'il n'y ait pas de cuvette, pour que, justement, on puisse imprimer recto verso. Si vous avez une cuvette, l'impression des caractères recto verso, ça n'est pas possible. Et il fait ça à l'aquatinte, et le résultat, c'est ce que vous avez ici. Bah, c'est un peu gris, c'est un peu terne, l'encre n'est pas noire, et il se dit c'est pas possible, ça n'ira pas du tout, j'aurai des beaux caractères d'impression, c'est nul, on jette. Hop, toutes les planches en cuivre, ces magnifiques planches en cuivre sont mises de côté, et du coup Pierre Alechinski reprend quand même les motifs et va lui-même graver ces motifs sur des lino, du lino, donc du linoléum, et ça s'appelle la linogravure, et il va dégager à la main en laissant d'ailleurs au passage un pouce dans l'affaire parce qu'il va attraper une arthrite. C'est très très dur de creuser linoléum. Et à partir de ces matrices, donc, le texte est imprimé, et cette fois-ci de façon tout à fait convenable. Donc, vous voyez un noir absolument magnifique. Alors, par ailleurs, Pierre Alechinski va aussi faire en hors-texte cette fois-ci une série d'eau-fortes, 7 eau-fortes. Et donc vous avez un blanc rideau d'excitant espéré moderne par Pierre Alechinski qui va lentement descendre sur les éléments de la vie quotidienne. Voilà. Alors là, nous avons également, donc je vous montre ce dont nous disposons, nous possédons les matrices, l'ensemble des matrices pour les impressions en noir de ces eaux-fortes. Alors, par ailleurs, nous sommes dans l'atelier de Pierre Leschinski à Bougival. Pierre Leschinski a conservé par-devers lui toute une série d'états de ses gravures, et notamment une gravure comme celle-ci, qui est un état inconnu. Donc, on a véritablement tout un matériel. Alors, ça, c'est la première étape. La première étape, vraiment, le livre. Et puis, après, Pierre Leschinski, donc voici le livre, et après, Pierre Leschinski, à partir de ça, va se dire, mais ces motifs, ils sont sympathiques, je vais les réutiliser. Et donc, vous voyez ici, tout à fait en bas, dans la prédelle, un des motifs de linoléum qui est repris, et par-dessus, une grande encre. Alors ça, ce sont des peintures assez grandes, elles font 2 mètres de haut, pratiquement. Et donc, Pierre Leschinski va faire tout un jeu comme ça, en reprenant dans la prédelle les éléments du Occitan moderne, et par-dessus des choses qui reprennent un peu ce qu'il avait fait dans les eaux fortes, mais d'une façon beaucoup plus libre. On n'est plus véritablement dans l'illustration de Balzac. Et puis, à un moment, il va retrouver, quelques années plus tard, il est dans son atelier, et puis il voit dans un coin ces grandes plaques de cuivre avec ces malheureux essais d'aquatinte. Et là, il se dit quand même, c'est pas possible. Pierre Leschinski, il était graveur avant d'être peintre. Je ne peux pas laisser ces plaques comme ça, il faut que je les utilise. Donc il va les reprendre en se les traitant cette fois-ci à l'eau forte. Et hop, il va donc faire ces grandes planches, ces grandes gravures, avec 2 niveaux de noir différents, donc un gris pour ce qui relevait des excitants modernes, et puis un noir pour les autres motifs. Alors les autres motifs, là, Balzac n'existe pratiquement plus. C'est-à-dire en fait, Pierre Leschinski, va partir de la forme d'un élément visuel, et à partir de ça, il va broder. De temps en temps, reviennent des choses très secondaires. Par exemple, ici, il va partir du principe, au fond, c'était pour un livre. Donc on va faire un peu comme les pages d'un livre. Et dans un troisième temps, alors là, cette fois-ci, il s'est passé 20 ans pratiquement, Pierre Leschinski va reprendre ses grandes gravures et va se dire, tout ça, c'est bien joli, mais c'est un petit peu terne, et il va, à la main, peindre à la tempéra tout autour. Donc on a comme ça un cycle d'œuvres, une création qui s'échelonne sur 20 ans, avec toute une œuvre, au départ Balzac, de façon assez ténue, et à l'arrivée, plus grand chose. J'aime bien comparer ça un peu à du jazz. Vous partez d'un petit air de musique bien connu, comme Au clair de la lune, puis vous faites un bœuf, et au bout de 20 minutes, plus personne ne retrouve Au clair de la lune, mais enfin, il est quand même à la base, si vous voulez. Et là, c'est un petit peu le même principe. Au départ, il y a Balzac, et puis progressivement, on arrive à des choses où Balzac est complètement oublié, mais en même temps, ce travail par reprises successives, dans son principe même, au moment où Pierre Leschinski semble le plus éloigné de Balzac, c'est à ce moment-là qu'il le rejoint, parce que Balzac a le même mode de travail. Il fait son manuscrit, il envoie ça à l'imprimeur. L'imprimeur imprime et lui renvoie le placard des fois qui est 2-3 corrections. Et là, Balzac se déchaîne totalement. Il va multiplier le texte par 3, va réécrire, va mettre ce qui est en page 25, ça va devenir la première page, etc. Il renvoie ça à l'imprimeur qui est désespéré. On met tout à la casse, on réimprime, on renvoie ça à Balzac, même traitement. 2 fois, 3 fois, 4 fois, 17 fois pour César Birotteau. Les imprimeurs, ça les rend fous. Mais, et à la fin, on a évidemment un résultat qui n'a plus rien à voir avec le début. Donc, si vous voulez, on a ce mode de travail assez commun, finalement, aux artistes, qui se rejoint par le haut, et c'est un petit peu ce qu'on aurait souhaité montrer. Alors, évidemment, moi, j'aurais voulu montrer ça à la Maison de Balzac, à Paris. Mais quand vous l'aurez visité, si vous ne l'avez pas déjà fait, vous réaliserez que l'endroit est absolument charmant, la muséographie formidable, j'en suis l'auteur, mais... C'est un endroit qui est petit, 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 petit et bas de plafond. Donc forcément, les grandes œuvres, ça ne tient pas. Et si on voulait tout mettre, on ne pourrait pas. Du coup, j'ai cherché désespérément un autre endroit pour pouvoir faire ça, parce que je me suis dit, c'est quand même trop bête, on ne peut pas ne pas présenter ce texte, etc. Et Julie est arrivée, tel Zorro, avec Julie, propriétaire pratiquement du château de Saché en Touraine. Le château de Saché, qui est lié directement à Balzac, c'est la demeure de la famille Margonne. Alors les Margonne ont partie liée, surtout Monsieur de Margonne, qui était l'amant de la mère de Balzac, et le père naturel du petit frère de Balzac, que le père officiel a eu quand même le bon goût de reconnaître. On savait vivre à cette époque. Donc voici comment se présente Saché. C'est une très jolie demeure, en Indre-et-Loire, à une 20aine de kilomètres de Tours, à peu près. Donc, un très bel endroit, vous voyez, on distingue tous les petits panneaux, ils ont tout bon, maison des illustres, monuments historiques, etc., etc. Les buissons en cachent quelques-uns. Et donc, vous entrez dans cette demeure, vous avez des indications, donc on vous rappelle que parmi les grands événements de Saché, vous avez la présence de Balzac, qui est souvent venu, qui a écrit là-bas. Et puis, Saché, c'est aussi le lieu d'inspiration, véritablement, du Lys dans la vallée. Donc, si vous voulez, c'est un site qui a une réelle importance. Alors, quand vous rentrez dans le sachet, le problème, c'est que moi, je me disais, ça y est, j'ai tout sachet, tous les espaces, je suis ravi. Et donc, je pensais investir le salon. Et là, Julie m'a dit non. Non, le salon, on y tient, c'est notre muséographie, c'est vraiment nos collections permanentes. Le salon n'est pas accessible. Bon, d'accord. Donc, je passe sur le salon. La chambre de Balzac, j'avais bien compris avant même de poser la question que je n'y aurais pas droit non plus. Donc cette chambre de Balzac, vous l'avez ici, avec toutes sortes de meubles chinés dans les années 50. Donc une cafetière, une lampe. Chinée dans les 1950, je précise. Des fois que vous ayez encore un doute. Et là encore, si vous voulez, ce n'était pas possible. Donc finalement, la question, c'est de savoir qu'est-ce qu'il reste. Et ben, ce qu'il reste, c'est donc vous avez cet escalier qui ensuite conduit à une première petite pièce qui est le salon d'accueil. Alors là, quand on voit ça, on se dit, comment vais-je faire pour présenter Alechiski là-dedans ? Bon. Alors, il y a un superbe papier peint. Un papier peint dont...
Choisi
par Julie, qui en était très fière, et qui était défendu bec et ongle par la personne à qui Julie avait délégué la gestion directe de sachet. Et donc, il m'a dit, hors de question de toucher à ce papier peint, hors de question de repeindre quoi que ce soit, on n'y touche pas. Et puis, en plus, on en est très fiers, c'est une pièce, on y tient, ça fait partie... Là, on met vraiment le château en histoire, donc on veut le garder. Bon. Alors, on imagine... Non, vraiment, ça ne passe pas du tout. Non, c'est pas mieux non plus. Alors, on se prend à rêver un accrochage idéal de Pierre Alechiski. Voilà. Ben ça vous fait rire, mais moi, ça ne me faisait pas rire du tout. Donc, on passe aux salles suivantes. Et voilà, donc là, ça, c'est l'avantage de dans un lieu monument historique, c'est que vous avez une présence architecturale très, très forte. Et donc, là, vous avez une alcôve magnifique. Et puis, comme c'est un monument historique qui a été pas totalement gâté par les architectes en chef des monuments historiques, vous avez aussi, notamment en partie supérieure, un certain nombre de choses qui servent à l'aération qui ne sont pas absolument gracieuses. Donc là encore, et puis les murs sont des très beaux murs avec un superbe mortier posé dessus. Je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à la façon d'exposer du papier sur un mortier brut, mais ce n'est pas forcément gagné d'avance. Voilà. Et puis, vous avez des grandes fenêtres. Donc, tout ça, ça fait partie du site, si vous voulez. Donc, forcément, le site vit. On ne peut pas en faire l'impasse, d'autant que ce site est rattaché à Balzac. Donc, ça pose un vrai problème. Autre espace qu'on mettait à ma disposition, l'imprimerie. La salle est magnifique, vous pouvez le voir. Seul problème, l'imprimerie, c'est que vous avez des presses. Et les presses, elles sont en fonte. Alors, si déplacer des presses en fonte, c'est la moitié du budget d'exposition à soi tout seul. Parce que ça, c'est un autre point sur lequel on reviendra. Mais le budget, c'est un budget qui n'est pas forcément le budget dont vous entendrez parler cet après-midi, ni celui dont vous avez entendu parler hier. Là, on est dans des eaux basses. Alors, moi, j'ai l'habitude, ça ne me gêne pas. Mais enfin, bon, sachez-le, on n'a pas toujours 500 ou 600 000 euros. Parfois, on n'a même pas le dixième de ça pour travailler. On est plutôt dans le vingtième. Il faut faire avec. Ça s'apprend. Et ça n'est pas véritablement un problème, en réalité, pour faire son métier. Donc, une autre très belle salle de projection. Mais là encore, si vous voulez, des niches partout, des fenêtres dans tous les sens, et puis une très jolie pierre. On ne va pas dissimuler tout ça, si vous voulez, pour faire une salle d'exposition. Donc, voilà. Que faire ? Comment travailler là-dedans ? Et déjà, le problème du circuit. Alors, le circuit, ça, voici le château tel qu'il se présente. Donc, en fait, pour une exposition, vous entrez par cette porte et vous ressortez par celle-ci. Rien de choquant. Mais si vous prenez le plan, là, vous rentrez par ici, vous montez l'escalier... Vous arrivez dans un vestibule qui vous met sur le salon d'accueil, celui avec le joli papier que je vous ai montré tout à l'heure. Vous passez dans la salle Paul Métadier avec l'alcôve et puis les jolies constructions sur le mur. Vous faites le tour, vous ressortez dans un vestibule. Là, vous évitez de regarder le grand salon, c'est l'espace que ne voulait pas me laisser Julie. Et vous enfilez un petit escalier en colimaçon qui vous conduit à l'étage supérieur. Là, vous traversez sans rien voir la salle Louis Lambert qui est une salle d'exposition permanente. Vous ne regardez ni à droite ni à gauche. Vous vous précipitez dans la salle Le Père Goriot, salle d'exposition complètement vide. Merci. Vous faites demi-tour, vous repartez, vous reprenez l'escalier. Cette fois-ci, vous devez descendre deux niveaux. Sinon, vous revenez là où vous êtes déjà venu pour retomber dans un vestibule qui conduit dans la rotonde avec la projection. Là, vous avez un vestibule qui était vide. Et puis la salle de l'imprimerie, vous faites un petit tour et vous partez. Voilà. Donc un circuit qui n'est pas absolument simple et des ouvertures très nombreuses qui donnent sur le jardin, donc qui font sens puisqu'on est dans le château du Lys dans la vallée, donc on ne peut pas, si vous voulez, transformer ça en boîte d'exposition, ça n'est pas du tout le propos. On a une équipe très enthousiaste, vraiment qui s'investit énormément, très, très efficace, mais très limitée en nombre. Des moyens financiers qui sont extrêmement contraints, ce qui fait qu'avec déjà le déplacement des œuvres, si vous souhaitez commencer à tout transformer à l'intérieur, bon, c'est très limité. Donc si vous voulez, là, hors de question de faire appel à un architecte, par exemple. Donc là, on a toute l'attitude, mais enfin en même temps, l'attitude d'exercer ces compétences qui, en matière d'architecture, sont souvent proches de la ringardise. Donc ça pose quand même un problème. Travail très limité pour tout ce qui est aménagement. Donc voilà, c'est un peu compliqué. Et puis l'équipe a sa conception propre du site, sa conception propre de la façon de le faire vivre. Et là, si vous voulez, ça n'est pas très simple. Donc la question qu'on se pose à ce moment-là, c'est qu'est-ce qu'on veut faire ? Et on se rend compte, dans un projet comme ça, que ce qu'on veut faire, eh bien, c'est servir 3 mètres à la fois. Il faut servir le texte de Balzac. Alors Balzac, il n'est plus là pour se défendre, mais enfin, on est quand même là pour le mettre en avant. Il faut servir l'œuvre de Pierre Alechinski. Alors Pierre Alechinski, on ne l'a pas eu dans les pattes, dans l'exposition, mais on savait qu'il viendrait. Alors, si vous voulez, c'est un peu l'épée de Damoclès. Donc, il est là, et puis c'est lui qui prête les œuvres, c'est lui qui les a faites. Et puis, c'est notre responsabilité aussi de mettre ça en valeur le plus possible. Et enfin, mettre en valeur le bâtiment et le site qui ont leur vie propre et qui ont vraiment, comme je vous l'ai dit, partie liée à Balzac. Et enfin, protéger le mieux possible les œuvres dans une demeure qui offre toutes sortes de traquenards. Alors, le principal traquenard, évidemment, c'est la lumière. La lumière, elle est partout. C'est un bâtiment qui ouvre dans tous les sens et qui est ouvert sur le jardin. Donc on ne peut pas couper la vue sur le jardin en permanence, ce n'est pas possible. Les gens ne vont pas rentrer dans un tunnel pour en sortir. Enfin, ouf, on respire, ce n'est pas du tout souhaitable. Il y a éventuellement dans ce genre de bâtiment, toujours on se méfie de l'humidité, parce que les demeures anciennes, ça remonte, ça descend, ça passe à travers les murs. Vous avez en plus très souvent les phénomènes de refroidissement, c'est-à-dire pendant la nuit, eh bien, ça se refroidit l'extérieur, donc la température va changer, et dans les pièces, elle ne change pas, ce qui fait que vous avez des contrastes qui peuvent être très violents. Vous avez aussi, heureusement d'ailleurs, des visiteurs, mais des visiteurs, ils sont des doigts, et des doigts, ça peut toucher les œuvres. Et puis enfin, vous avez les ennemis que vous n'avez pas identifiés et dont vous vous rendez compte parfois trop tard qu'ils existent. Et ça a été la surprise, mais je vous en parlerai plus tard. Donc, le projet initial au départ, c'était, on a une œuvre de Balzac, on a des œuvres d'Alechinski, on va essayer de tout montrer. Comment faire ? Là, en fait, les idées commencent initiales, d'origine. Ce n'est pas des idées, en fait, c'est un vague projet. Après, il va falloir les transformer pour les adapter au site. Et c'est là où ça devient véritablement intéressant, en fait. C'est là où la démarche devient sympathique, pas simple, mais sympathique. Et le fonctionnement du site va être complètement déterminant. Alors, le fonctionnement du site, c'est l'équipe en place qui nous a dit, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de mettre en avant l'histoire du texte de Balzac. Ce texte, il a vécu. Balzac, avant d'écrire ce texte, avait fait un voyage de Paris à Java, dans lequel il y a déjà des éléments qui sont repris. Et puis, il y a des éditions anciennes. Nous, on a des éditions anciennes, on aimerait bien les montrer. C'est très sympa. Et puis, me disent-ils, Balzac parle du café dans ce texte, mais justement, nous vendons un café Balzac. Et puis, nous avons une cafetière, certes pas d'origine, mais quand même, on a une cafetière dans la chambre de Balzac. Pour les guides, c'est du pain béni que de parler des relations de Balzac et du café. On ne peut pas ne pas les laisser en parler, ce n'est pas possible. Et puis, dans le traité d'édition moderne, Balzac parle du tabac. Or, très peu de temps auparavant, le musée de Saché avait organisé une exposition qui s'appelait « Mon cher Georges » et qui évoquait les relations de Georges Sand et de Balzac. Et c'est Georges Sand qui, selon Balzac, lui aurait fait découvrir le houka et le lataki, donc qui aurait fait découvrir le narguilé et des tabacs absolument extraordinaires, plongeant l'esprit dans un monde irréel. Voilà. Donc ça, ils auraient bien aimé, si vous voulez, aussi le ressortir. Et puis, comme ils ont une imprimerie, évidemment, puisqu'on fait un livre, il faut mettre l'accent sur les techniques d'impression. Voilà, donc ça faisait beaucoup de projets. Et en plus, il fallait parler du traité d'édition moderne en général et puis d'Alechinski en particulier. Donc, si vous voulez, ça a été un peu compliqué. Et on est arrivé à analyser finalement 2 conceptions radicalement différentes de ce que pouvait être l'exposition. Une exposition qui se concentrait sur l'usage que les guides pouvaient en faire. Donc, il s'agissait pour les guides d'avoir des éléments à dire et l'exposition permettait au guide d'avancer des propos qui étaient pratiquement des propos extérieurs, ou en partie, en largement extérieurs, mais nourris en partie par l'exposition. Et en réalité, si on creuse un peu, on se rend compte que l'idée, c'est de répondre pratiquement à une attente des visiteurs, qui aiment bien qu'on leur raconte des petites histoires. Ça, si vous racontez, par exemple, la vie amoureuse de Balzac, et Dieu sait qu'elle est compliquée, le succès est assuré auprès des groupes. Maintenant, est-ce que c'est ce que nous souhaitons montrer ? Ça, c'est autre chose. Donc, si vous voulez, ce sont deux choses possibles, et après, il y a des choix à faire. Donc, finalement, on est parti du principe que toutes ces présentations, les techniques d'imprimerie, le Balzac et le tabac, Balzac et le café, d'une certaine manière, s'éloignaient du texte qu'on voulait montrer, et s'éloignaient aussi de Pierre Alechinski. Donc, on a pris le parti, et je remercie Julie d'avoir assisté dans ce choix, parce que en face, c'était pas gagné. Donc, on a pris parti de mettre véritablement en valeur uniquement ce que l'on montrait, c'est-à-dire un texte de Balzac et l'œuvre de Pierre Alechinski. Donc, de mettre véritablement l'accent là-dessus, de façon à éviter un éparpillement et à éviter les choses. Enfin, après, une fois ce parti général résolu, il a fallu voir comment monter l'exposition. Et là, en fait, les contraintes, elles sont tout simplement spatiales. C'est-à-dire, vous avez des grandes pièces et des grandes œuvres. Les grandes œuvres, c'était comme ça qu'on fonctionne. Les œuvres les plus enquiquinantes à placer, où est-ce que je les mets ? Eh bien, les plus grandes œuvres, il y a une grande salle haute de plafond, c'est le seul endroit où on peut les mettre, donc on les met là. Une fois que ces œuvres sont mises en place, j'ai d'autres œuvres, où est-ce que je peux les mettre et quelle cohérence je peux donner par rapport à ça ? Donc finalement, on est arrivé au parti que l'on allait choisir de présenter les grandes encres dans le salon et retenir un parti chronologique, donc présenter le livre à l'accueil et puis présenter ces œuvres presque dérivées de Pierre Alechinski dans la dernière salle. Il restait le vestibule et l'imprimerie. Et là, on s'est dit, mais si on met des œuvres après, par rapport au feu d'artifice de ces tempéras, de ces œuvres à la tempéra, ça n'ira pas. On ne peut pas faire ça, donc on ne présente pas d'œuvres. Et c'est dommage, parce qu'on avait des œuvres qu'on ne pouvait pas montrer. L'accueil ne permettait pas de tout mettre. On ne pouvait pas mettre toutes les eaux fortes, et toutes les linogravures, et tout le livre, et tous les essais. Ce n'était tout simplement pas possible. Donc le parti, dans ces cas-là, c'est un parti qui consiste à élaguer, de façon à maintenir la cohérence du propos. Et En même temps, comme une pensée n'est jamais totalement droite et que parfois on va se contredire, à un moment je me suis dit, mais quand même, cette idée de, c'est trop beau, cette idée de montrer, de comparer ce travail d'Alechinski qui va arriver par vague progressive, à faire un peu comme Balzac par vague progressive pour extraire son œuvre de lui-même. Ce sont des gens qui sont dominés par leur œuvre. Il faut que ça sorte d'une manière ou d'une autre. Ça prend le temps que ça prend, mais ça doit sortir. Et donc, ce cheminement de l'artiste, c'est une chose fantastique. Il faut qu'on l'explique, parce que les gens ne le savent pas toujours, ça. Donc, on voulait le montrer. Et je me suis dit, mais est-ce que vous ne pourriez pas, puisque vous avez un petit espace où vous montrez les manuscrits, est-ce que vous ne pourriez pas montrer des épreuves corrigées pour justement faire un écho ? Et là, la remarque qui m'a été faite était une remarque pleine de bon sens. Mais s'il n'y a que ça dans les collections permanentes, les gens n'y vont rien comprendre. Et puis, d'autre part, il y avait un problème tout simplement, après, de matériaux, c'est que nous n'avons pas suffisamment d'épreuves pour montrer ça. On en aurait, mais il leur faudrait remontrer des choses qui ont déjà été présentées, qui ont déjà pris de la lumière. Ce n'est pas possible. Donc, on y a renoncé. Ce sont des contraintes qui vous obligent à faire cela. Voilà. Alors, ensuite, on a fallu monter l'exposition. Donc là, je vous la présente. Alors, l'escalier, on l'a utilisé pour présenter des citations de Balzac. Donc, on a commencé par Balzac, des citations en dehors du traité d'Occident moderne, mais préparant. Donc, une citation où Balzac parle du café, parle du tabac, parle de l'alcool dans sa vie quotidienne, essentiellement dans sa correspondance. Là, par exemple, je ne sais pas si vous arrivez à lire, mais quelle existence que la mienne ! Contre tant d'ennuis, je suis seul, sans compensation. Allons, voilà un second coup de fouet. Marche, cerveau brûlé de café. Voilà. Donc, ce sont des citations assez courtes, parce qu'on ne peut pas amener les gens à s'arrêter dans l'escalier. Il faut qu'ils puissent monter. Et puis, si les gens s'arrêtent, ça peut entraîner des problèmes, d'autant que le public n'est pas toujours très, très habile. Voilà. Donc, on arrivait ensuite au vestibule. Et là, dans le vestibule, on a choisi de montrer le texte des conservateurs. Puisque le parti, si vous voulez, pour nous, quand on présente un texte littéraire, c'est de s'effacer totalement. On part du principe que, même si Julie et moi, nous écrivons extrêmement bien, je vous rassure, mais on part du principe que les gens ne viennent pas pour lire Julie Pellegrin ou pour lire Yves Gagneux, mais que ce qu'on doit mettre en avant, c'est Balzac et Pierre Alechinski. Ce qui fait que nos textes ont été limités à ce petit panneau que vous voyez à l'accueil et après à des petits panneaux dans les salles, mais rien sur les murs. Non, je vais dans le mauvais sens. Voilà. Alors ça, c'est le salon d'accueil. Donc vous le remarquez, le papier peint a disparu. Merci Julie. Alors, il n'a pas totalement disparu. En fait, il est derrière des cloisons en bois qui ont été mises, mais il a fallu négocier ferme pour arriver là. Et là, vous avez un aspect technique qui est aussi intéressant, c'est que ce sont des menuisiers du département qui ont fait ce travail-là, et ils l'ont extrêmement bien fait. Et alors là, c'est un conseil que je vous donne. Quand vous voyez que le travail est mal fait, il faut le dire. Quand vous voyez que le travail est bien fait, il faut le dire aussi. Alors, c'est important d'abord, c'est tout simplement, c'est une marque de remerciement qui est assez naturelle, si vous voulez. Les gens sont nés du mal, il faut les en remercier. Et puis, c'est aussi intéressant pour vous, parce que si les gens ont l'impression que vous moquez de leur travail, le jour où vous leur demandez de rester après 5 heures, parce que l'inauguration a lieu le lendemain matin, ah, mais non, la journée est terminée. Au revoir, débrouillez-vous. Et donc, vous restez tout bête avec les clous, les outils au milieu de la pièce, sans pouvoir faire quoi que ce soit. Donc, si vous voulez, il y a un travail de relations humaines à mener avec les corps de métier, et ce travail de relations humaines n'est efficace qu'à partir du moment où vous êtes capable vous-même d'apprécier la qualité de ce qu'il fait. Si vous commencez à faire des compliments sur quelque chose de moyen, ce sera très très mal reçu. Donc ça veut dire que vous êtes tenu de faire attention à ces détails et d'être capable de porter un jugement sur la qualité du travail et de vous rendre compte que là, les gens sont allés un peu plus loin que ce qu'ils auraient pu faire ou un petit peu en deçà peut-être de ce qu'ils auraient pu réaliser si c'était vraiment donné du mal. Mais ça, c'est vraiment une chose absolument essentielle. Donc là, dans la première salle, le parti consistait à présenter l'ensemble des eaux-fortes et puis à présenter quelques gravures, et ces gravures présentées dans un sens complètement dégagé du livre, puisque notre propos n'était pas de montrer le livre dans sa totalité, mais de montrer vraiment le travail de Pierre Alechinski, et ces pages n'étaient pas non plus destinées à être lues. Ce qui était destiné à être lu, c'était ce qui était sur le mur. Et là, sur les murs, on a mis d'une part des extraits significatif du traité des excitants modernes, juste ce qu'il fallait pour donner envie aux gens de lire. Le principe étant qu'à la fin du circuit, ils aient envie de mieux connaître Pierre Alechinski et de poursuivre la lecture de ce livre qui finalement a l'air quand même pas si mal que ça. Et puis ça change un peu l'idée de Balzac qu'on fait, parce que ce qu'on leur montrait, c'était évidemment pas les descriptions interminables qui ont plombé l'existence de générations de lycéens. Vous n'aurez pas en parler comme ça, je sais, bon... Et sinon, il y avait également, et voici, alors ça, c'est la salle avec l'alcôve, etc. Donc c'est pareil, grâce à Julie, l'alcôve a été complètement montrée. Alors on garde le plafond, mais là, c'est une salle où on a quand même globalement mis le monument très, très loin derrière. Le monument n'est plus tellement présent. Donc ça nous a permis de présenter ces grandes encres dans des conditions tout à fait convenables, avec là encore au mur des textes de Pierre Alechinski sur son travail pour le traité d'histoire moderne, et des textes de Balzac sur le travail en général, mais cette fois-ci pas nécessairement extrait du traité des excitants modernes. Et on a également montré les matrices, c'est Lino que je vous ai présenté. Là, on a laissé le mur, parce que pour des Lino, un mur en simple mortier appliqué, ça va très bien en réalité. Et donc là encore, le principe de la présentation n'est pas un principe intellectuel, c'est un principe visuel, une exposition. C'est purement visuel, aucun problème, 5 minutes. C'est une exposition, c'est d'abord visuel, et si l'on veut présenter des idées, ça ne marche pas, il faut qu'on amène les visiteurs à avoir envie de comprendre les idées, c'est eux qui font le cheminement derrière, on est là pour donner envie et pas pour forcément donner dans le didactique en général ça ennuie. Donc je continue la visite, voici donc une présentation avec un texte de Pierre Alechinski. Ensuite, donc, on traverse sans trop regarder ce vestibule et l'on arrivait dans une pièce où était présenté l'ensemble des œuvres reprises par Pierre Alechinski avec le tour. Et cette fois-ci, on ne présentait que du Pierre Alechinski puisque Balzac n'était pratiquement plus présent du tout. Alors Balzac, on retrouvait Pierre Alechinski dans la projection. Donc là, en tout petit sur l'écran, c'est Pierre Alechinski. C'est peut-être un peu dur à reconnaître, croyez-moi sur parole. Et ensuite, dans le vestibule, il y avait des bancs. On a constaté que c'était à la fin de la visite, que les gens pouvaient s'asseoir, et en s'asseyant, ils avaient face à eux des citations un peu plus longues cette fois-ci, puisqu'ils étaient assis, de Balzac, tirées du chef-d'œuvre inconnu, de La cousine bête, etc., et parlant de la création artistique, de façon justement à essayer d'expliquer ce travail de Pierre Alechinski, et ce travail, c'est une réflexion générale sur l'art et sur la création artistique. Donc l'imprimerie, toujours les mêmes presses, toujours présentes, et là simplement... Juste un rappel de ce qui avait déjà montré, les matrices en cuivre, sans autre indication, plus quand même, une chose que je ne voulais pas, mais qui m'a été imposée, bon, ça arrive, hein. Le commissaire n'est pas totalement maître de ce qu'il fait, où l'on avait absolument voulu montrer un produit fini, c'est-à-dire une des eaux-fortes. Alors là, on tombe justement dans les problèmes de lumière, puisque la salle est très ouverte, et la lumière, elle était présente, puisqu'il fallait aussi permettre de voir les choses. Alors j'avais suggéré que l'on mette des filtres opacifiants, Ça existe, donc indépendamment des filtres UV, vous mettez des filtres opacifiants, on peut voir à travers, donc on devine qu'il y a des arbres, on voit les choses, et en même temps, l'intensité lumineuse qui rentre est parfaitement régulée, et donc on arrive largement à 50, 55 lux, à tout ce qu'on veut. Après, je vous renvoie Jean-Jacques Ezrati qui vous fera, il présentera les choses beaucoup plus en détail, mais vous l'avez certainement déjà entendu, parce qu'il faut quand même savoir que, sachez, il y a des très belles fenêtres, un paysage magnifique, mais c'est exposé plein sud, ici, ou plein ouest, donc si vous voulez, on a quand même un soleil qui est très présent. Alors là, en l'occurrence, comme on n'avait pas les filtres, ce qui a été retenu, c'était une gestion manuelle. Donc, vous avez des volets intérieurs. Il s'agissait de fermer les volets et de les rouvrir progressivement en vérifiant à chaque fois que la lumière du jour n'allait pas directement sur les œuvres et qu'on n'avait pas une intensité lumineuse globale trop importante. Mais ça, après, on dépend des gens qui sont sur place. Donc, c'est une équipe sérieuse, ça ne posait pas trop de problèmes. On peut parfois, ça peut être un grand risque. Si vous voulez, si quelqu'un oublie de mettre les volets et que pendant une journée complète, vous avez un soleil d'été qui va frapper les œuvres, ça laisse des traces. Voilà. Alors là, autre problème, donc des grandes encres sur papier à portée de main. Que faire pour les protéger ? Donc là, évidemment, on m'a dit, mais nous avons des bandes de protection qui sont très belles. Voilà, ça fait ça. Mais ce n'est pas gracieux. Donc évidemment, on y a renoncé. Et le parti qui a été pris a été un parti plus discret. Vous le voyez sur le sol, consistant à simplement mettre des petites barres. Alors, c'est trop petit pour faire tomber les gens. Et en même temps, c'est suffisamment massif pour qu'on les sente sous le pied. Donc ça veut dire que normalement, les gens s'arrêtent. Effectivement, on n'a pas eu le moindre problème. Donc les gens ont compris qu'il ne fallait pas trop s'approcher des œuvres. Et en même temps, ça nous a évité d'avoir à les masquer trop brutalement. Alors je vous ai parlé des ennemis non identifiés. Eh bien, un ennemi non identifié qui est terrible à sacher, c'est la gravité. La force de gravité. Alors j'en ai eu déjà une démonstration éclatante la veille de l'inauguration, puisqu'on revenait de déjeuner et d'un seul coup, on entend un grand bruit. On regarde, dans le parc, juste en face du château, un arbre quasiment centenaire venait de s'effondrer. Bon, voilà. Alors là, je dois dire, les équipes ont été très très efficaces. L'arbre a été débité en totalité, il ne restait plus que le tronc. On aurait dit une sculpture moderne, c'était magnifique. Donc tout, de ce point de vue-là, tout s'est bien passé. Mais pour Mélino qui était là, donc qui était présenté très légèrement incliné de façon à ne pas trop prendre la poussière, puisque là, il n'y a pas de protection, c'est la demande de Pierre Alechinski. On les a présentés au bout de trois mois. Et au bout de trois mois, je me suis rendu compte que Mélino, je vous en montre un de face, ils sont en fait fixés sur les planches par des clous. Donc vous avez un clou d'un côté, un clou de l'autre. Sauf que le lino, c'est souple. Et quand c'est légèrement penché, eh bien, ça va commencer à s'affaisser, entraîné par son propre poids. Et donc, au niveau des clous, vous commencez à avoir des déchirures qui apparaissent. Donc, il a fallu les restaurer, mettre des points de colle par-ci, par-là, de façon à éviter ça. Et ça, on ne s'y attendait pas. Donc, voilà, ça, c'est la surprise. On peut toujours avoir des surprises. Maintenant, l'exposition, c'était sympa. Alors, oui, en médiation, puisque je n'ai plus du tout de temps et que là, je vais me faire tirer les oreilles par le maître du temps. Donc, en médiation, on s'est contenté de réimprimer le traité d'Occident moderne avec les illustrations de Pierre Alechinski et un texte de Pierre Alechinski. Et à la fin, pour ceux qui vraiment voulaient en savoir plus, deux trois pages sur l'exposition. Mais notre but n'est pas de faire un catalogue. Notre but, c'est de faire lire. Donc, c'est vraiment une démarche qui est un peu particulière. Et sinon, ben, l'exposition, ça a été on pourra en parler après, mais ça a été un succès, je crois. Oui, je lui confirme. Donc, c'est bien. Et pour le commissaire, ça a été un vrai succès, puisque Pierre Alechinski m'a remis pour la Maison de Balzac à Paris cette œuvre qui est présentée aujourd'hui. Eh oui. Donc Balzac était content. Voilà, et j'ai terminé.